quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Des étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, votre rendez-vous cinéma du mercredi. Ce sera en seconde partie d'émission et on fera vrombir les moteurs de moto. On vous fera aussi découvrir les MJC France qui organise son assemblée générale annuelle dans la Vienne. Ils ont choisi Latu et ils ont plein d'ambitions, notamment en faveur de la transition écologique. Ce sera en seconde partie d'émission. Comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda, vos découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Léo Lester de l'association L214. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion donc d'une manifestation qui a eu lieu il y a quelques jours, semaine maintenant à Châtellerault, manifestation que vous avez organisée dans toute la France. C'était pour dénoncer des magasins qui ne respectent pas les règles, on va dire, en matière de respect de l'animal pour ce qu'ils vendent. Expliquez-nous un petit peu comment est partie cette action.
Oui, en fait, on est face à une chaîne de supermarchés bien connue des Françaises et des Français, la chaîne de supermarchés Grand Frais, qui accuse un retard important sur les autres chaînes de supermarchés en France, puisqu'elle refuse de s'engager contre le pire de l'élevage intensif des poulets. C'est des problématiques qu'on pointe du doigt, dont on a déjà montré les images, les gens savent, ils ne veulent plus voir ce genre de poulets de Frankenstein qui sont élevés à 22 par mètre carré. Ils ont été sélectionnés génétiquement pour grossir anormalement vite. Ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Tous les supermarchés en France, de Carrefour à Lidl, en passant par Intermarché, se sont déjà engagés à arrêter ces pratiques. Reste Grand Frais qui refuse toujours de s'engager.
Alors, en quoi consiste cet engagement des autres supermarchés? Qu'est-ce qui les engage? Quelles sont les conditions?
En fait, c'est quelque chose de raisonnable qu'on demande. Nous, on privilégie le dialogue. Ça fait des années qu'on communique avec la direction de ces grands supermarchés pour leur dire, on leur présente les problématiques en élevage et on apporte des solutions. Ces solutions, c'est le European Chicken Commitment. C'est une série d'engagements pour tourner le dos au pire de l'élevage intensif. C'est une trentaine d'associations de défense des animaux en Europe, des vétérinaires qui se sont réunis pour dire, on a des solutions. On va passer de 22 poulets par mètre carré à 15 maximum, c'est des demandes raisonnables. On va demander de la lumière naturelle dans les élevages, et c'est des demandes qui sont en fait soutenues par notamment l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Donc les scientifiques aussi sont d'accord pour dire il faut aller vers ce modèle, il faut que les entreprises s'engagent à ces demandes raisonnables. On leur a donné un horizon 2026 à l'époque, ça fait déjà des années qu'on leur demande, donc c'est pas... du jour au lendemain, on leur laisse le temps et c'est important en fait pour que les choses changent pour les animaux.
Et donc l'ensemble des supermarchés français a suivi cette démarche que vous leur demandez depuis plusieurs années ?
C'est ça, les supermarchés Lidl se sont engagés en 2020 après des manifestations de L214. Ensuite, beaucoup de supermarchés ont pris le pas. Intermarché avait commencé en 2019, ils avaient dit on a compris la problématique, on va changer les choses dans nos approvisionnements. On parle de leur marque distributeur, on parle pas des marques nationales, les marques comme Le Gaulois, Maître Coq, qui elles d'ailleurs ne se sont toujours pas engagées, mais les marques distributeurs, les marques Carrefour jusqu'aux marques Lidl, elles se sont engagées à horizon 2026 à donc donner plus d'espace aux poulets, à arrêter ces poulets de Frankenstein, à leur donner de la lumière naturelle dans les élevages. C'est important que tout le monde s'engage, en fait, que tout le monde prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui, Grand Frais fait de la pub, du marketing pour dire c'est génial ce qu'on fait, alors qu'en fait, ils s'approvisionnent en viande de poulet des pires élevages intensifs.
C'est vrai que l'image de Grand Frais n'est pas celle-ci. Ça a l'air d'être de bons produits, de qualité quand on va chez Grand Frais. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas.
Oui, c'est le contraste entre la com et la réalité. Malheureusement, c'est OK de faire de la communication, de mettre des beaux rayons, etc. Mais il faut que ça suive dans les faits. Pour les animaux, c'est important en fait. C'est 90% des Françaises et des Français qui ne veulent plus voir ces élevages intensifs qui sont opposés à l'élevage intensif en France. Il faut que ça bouge, il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités.
Donc vous avez organisé plusieurs manifestations au travers de la France. La dernière, c'était donc à Châtellerault. Comment ça s'organise et comment c'est accueilli par les différents magasins?
C'est très intéressant parce qu'en fait, on va se présenter devant le supermarché, on distribue des tracts aux consommateurs, aux consommatrices, aux clientes, en leur expliquant la problématique. La plupart des gens sont choqués. Ils ne pensaient pas que ça existait encore, ce genre de choses. On nous dit que ça ne se passe pas ici, ça ne se passe pas en France, c'est aux États-Unis, c'est en Europe de l'Est, où c'était avant. Pas du tout. C'est un modèle d'élevage intensif. La France, on n'est pas en reste. On est un des plus gros pays producteurs en Europe et on doit prendre nos responsabilités. On peut pas continuer. On peut pas d'un côté dénoncer les importations, dire que c'est pire ailleurs, alors qu'en fait, c'est souvent pire en France. Voilà.
Et quelle sera la suite? Est-ce que vous avez déjà eu des retours, des discussions avec les dirigeants de ce supermarché?
Oui, tout à fait. Hein. Encore une fois, nous, on privilégie le dialogue. Ça fait des années qu'on leur envoie des mails, qu'on leur a demandé de nous rencontrer. Malheureusement, la direction de Grand Frais est assez discrète. Elle se cache un peu derrière un anonymat pour éviter aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est important. On a trop longtemps laissé faire. Des entreprises, ce qu'elles voulaient, avec ce grand écart entre la communication d'un côté, la pub qui est faite, des poulets qui dansent dans les prés, et la réalité. Aujourd'hui, des associations comme L214, elles donnent de l'information, elles offrent des solutions, et derrière, les consommateurs, les consommatrices peuvent agir, soit en signant la pétition, ça c'est un peu le niveau zéro, hein, mais c'est pas avec la pétition que ça va changer forcément. Mais là où ça change, c'est quand les clients, les clientes viennent en caisse et disent moi j'ai appris ça, j'ai reçu ce tract, je trouve ça scandaleux. Il faut que les consommateurs et consommatrices transmettent le mot à Grand Frais notamment. Pour leur dire, on veut plus de ces choses-là, il faut que vous arrêtiez. Et ça fonctionne. Il y a aujourd'hui 120 entreprises agroalimentaires en France, donc j'en ai parlé, tous les supermarchés, mais aussi des fast-food comme Burger King, des fabricants comme Fleury Michon, Bonduelle, qui se sont engagés sur ces mêmes critères pour les produits où ils utilisent de la viande de poulet. Donc c'est possible.
Et puis en plus, il y a un problème de prix, de concurrence entre ceux qui font un élevage ultra intensif et puis d'autres qui essaieraient d'élever leur poulet de manière moins intensive, moins nocive pour les animaux.
Exactement. Alors là, sur le prix, on est face à une problématique importante aujourd'hui quand on sait le budget alimentation, le poids que ça peut peser dans le panier des consommateurs. La responsabilité, encore une fois, elle est du côté des industriels dont les marges ont augmenté depuis la crise. C'est scandaleux de savoir que des entreprises, on a parlé de la hausse des coûts des matières premières, etc. C'est pas faux, les matières premières ont augmenté, mais les prix ont augmenté encore davantage que les matières premières. Et ça, c'est scandaleux. On a des industriels qui se sont fait de l'argent sur le dos des consommateurs et sur le dos des animaux. Et il faut que ça cesse. C'est la question de la concurrence, de savoir ça va coûter plus cher. En fait, encore une fois, c'est 120 industriels qui se sont engagés. Des fast-food comme Burger King, Domino's Pizza, c'est quand même pas des... Ils marchent très bien, ils font des marges, et pourtant, ils ont décidé, ils se sont dit, il faut qu'on tourne le dos à ces pratiques cruelles envers les animaux. Donc c'est possible.
Puis comme vous le disiez, après toutes les vidéos que L214 a filmées ou d'autres associations qui alertent aussi sur ces questionnements-là, on se dit qu'on ne comprend pas que ça existe encore en fait.
Exactement, c'est un modèle agricole dont plus personne ne veut. Il est délétère pour les animaux, évidemment. Pour la santé, avec les risques de zoonose, les risques pour l'environnement de ces élevages intensifs, il est délétère pour les humains aussi. Personne n'y gagne, à part les industriels. Les humains qui travaillent comme ramasseurs de volailles, qui travaillent dans les abattoirs, qui sont victimes de cette course folle vers la rentabilité, n'ont aucun intérêt là-dedans. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les gens qui travaillent là-dedans. Nous on pointe du doigt la responsabilité de ces industriels qui sont un petit nombre à bénéficier de cette intensification. C'est pas les éleveurs qui sont responsables de ce modèle agricole, c'est les industriels comme Grand Frais.
Un grand merci Léo Lester donc de L214 d'être venu nous parler donc de ces différentes manifestations qui ont lieu dans toute la France pour alerter sur ces élevages de poulets intensifs qui demeurent sur notre territoire. Un grand merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
On continue en musique avec Isia Marie et le titre Beau Miroir.
Ça fait 10 ans que je me regarde à travers l'écran de mon phone-tel. J'ai pas vieilli, j'ai rajeuni, c'est trop mortel d'être immortel. Sur les photos, je m'extasie face aux contours de mon visage. Sur les images, y'a la magie, dans la vraie vie, y'a les mirages. La réalité me rattrape et me frappe à coups de pixels. Regarde sans phare, tout se détraque dans le miroir, je me révèle. La catastrophe, l'apocalypse, comme une ellipse intemporelle. J'ai pris 10 ans dans la gueule, c'est ça la beauté naturelle. Beau miroir, beau miroir, beau miroir, dis-moi qui je suis, beau miroir. En attendant, je suis pendu, c'est impossible de décrocher. Avec mon mec c'est tendu, on reste chacun de notre côté. Je voulais pas qu'il me voie ainsi, tel que je suis pleine de défauts. Ces derniers temps j'ai réfléchi à des dommages collatéraux. Je prends le taureau par les cornes avant que ce soit moi qui les porte. Je choisis le fond et la forme, elle s'adaptera peu importe. J'ai décidé de quitter mon filtre. J'ai décidé de quitter mon filtre.
MJC de France organise cette fin de semaine son assemblée générale annuelle à Latu dans la Vienne. Et pour en parler, on accueille tout de suite Patrick Chenu qui est directeur de MJC de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter un petit peu MJC de France et ses ambitions, puisque vous avez décidé de tourner cette assemblée générale vers la transition écologique. On va en parler ensemble. Peut-être expliquer un petit peu d'abord à nos auditeurs et auditrices qui est MJC de France.
MJC de France, c'est le réseau national qui fédère les 1000 associations locales, maisons de jeunes et de la culture, qui sont organisées régionalement. Voilà, donc nous les représentons au niveau national et nous animons le réseau des fédérations régionales qui la constituent.
Donc, vous avez décidé cette année de vous installer au CPA de Latus Saint-Rémy pour votre assemblée générale les 21 et 22 juin. Assemblée particulière puisque vous avez décidé de donner un tournant disons politique, à votre fédération et au MJC.
Oui, on a fait le choix de venir au CPA Latu, qui est une MJC en l'occurrence. Hein, et l'idée d'ancrer cette Assemblée Générale dans la Vienne, au sein du CPA Latu, qui est aussi un centre permanent d'initiative à l'environnement, c'est de faire à la fois ce temps institutionnel, l'Assemblée Générale que connaissent toutes les associations, mais surtout de faire le choix de le tourner vers l'inscription des MJC dans les transitions et dans la transition écologique plus particulièrement, en profitant de notre venue à Latu pour aussi faire une visite apprenante, je dirais, et voir comment finalement une association comme le CPA, dans ses pratiques quotidiennes, s'empare de cette question de la transition pour développer tout simplement l'appropriation des enjeux vitaux de la transition écologique dans le réseau des maisons de jeunes et de la culture.
C'est vrai qu'on connaît ces MJC effectivement pour tout l'accompagnement jeunesse qu'elles offrent, pour toutes les propositions culturelles également. Comment on arrive à, associer ça à des questions écologiques ?
On a déjà énormément d'actions qui sont menées dans les associations MJC, que ce soit des actions en direction de l'alimentation, on fait vivre des jardins partagés, on organise des débats, on fait des ateliers, on accompagne les gestes, on accompagne les gestes du quotidien, mais ça nous semblait nécessaire d'aller un petit peu plus loin. Et la première étape qui a été mise en place, c'est en octobre dernier, on a sorti un outil éducatif là, qui est plutôt à destination des enfants, qui s'appelle Chez Fraise. Chez Fraise, c'est l'idée d'un restaurant où on va pouvoir apprendre en fonction de ce qu'on mange, finalement, quel est l'impact carbone de l'alimentation en fonction de la manière dont elle est cuisinée, d'où elle provient, de la saisonnalité. Donc, c'est commencer à sensibiliser là, les plus jeunes, primaires, jeunes collégiens, etc., à la question de la transition par le biais de quelque chose qu'on partage tous, et notamment particulièrement dans les MJC, c'est le repas. Voilà. Donc ça, c'était une première étape. Et là, on a décidé d'aller un peu plus loin dans l'inscription de notre réseau sur ces enjeux de la transition écologique.
L'Atelier Saint-Rémy, c'est aussi une MJC en milieu rural. Vous allez aussi vous interroger sur ces questions-là de la culture, la coopération en milieu rural ?
Oui, parce que 50% des MJC sont en ville, mais les 50% sont en milieu rural, ce qu'on imagine peut-être un peu moins. On a des toutes petites associations portées par des bénévoles, des plus grosses, etc., qui agissent partout sur le territoire. Et la question du portage d'un projet d'éducation populaire dans ce contexte-là, en milieu rural aujourd'hui, est assez essentielle. Et ça nous intéresse aussi de voir très concrètement dans la Vienne, une initiative, par exemple, comme la Boulite, qui est une coopération culturelle entre associations locales des MJC pour amener de la diffusion de spectacles, mais aussi organiser l'éducation artistique et culturelle, accompagner des pratiques, etc. Donc, c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces pratiques.
L'une des autres questions que vous allez vous poser collectivement, c'est comment aussi accompagner les collectivités sur ces défis de transition écologique. C'est-à-dire que les MJC ne sont pas que pour leurs adhérents, on va dire, c'est aussi tourné vers les élus, les collectivités locales.
La particularité qu'on a, c'est que sur les 1000 MJC de France, on est partenaire avec 850 collectivités locales. Le premier partenaire des MJC, c'est la ville ou la communauté de communes ou l'intercommunalité. Donc, c'est comment aussi dans nos relations quotidiennes, régulières avec les collectivités, on est en capacité d'avancer ensemble sur ces questions-là, de mener des actions, de les accompagner, de les conseiller, de s'inscrire dans des projets qu'elles auraient elles aussi. L'idée, c'est un peu de faire alliance, je dirais, sur les territoires, sur ces enjeux-là. Avec ce qui caractérise nos associations, ce sont des lieux de pratique avant tout. C'est-à-dire que dans une MJC, on va mettre en œuvre et toutes les associations, elles ont la particularité aussi de diriger, je dirais, des équipements qui sont mis à disposition. Donc, c'est y compris dans la gestion de la MJC elle-même qu'on va voir comment est-ce que finalement cette question de la transition elle peut être abordée. Elle peut être abordée dans l'accueil du public, dans les repas qu'on y sert, quand on a une salle de spectacle, la manière dont on construit finalement, dont on crée une œuvre. Énergétique, la question du transport des enfants ou des jeunes, on a des minibus, mais c'est aussi l'enjeu de finalement comment est-ce qu'on va pouvoir travailler des coopérations, faire alliance avec d'autres acteurs sur les territoires, comment est-ce qu'on va travailler avec des producteurs. On accueille beaucoup d'AMAP, par exemple, dans les associations MJC. Donc, c'est finalement essayer de regarder sous tous les angles, je dirais, cette question-là, et de manière très concrète, comment est-ce qu'on va pouvoir l'aborder dans nos associations MJC, dans l'idée, finalement, de construire une forme de parcours d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va de la sensibilisation, de la formation des acteurs. Là, on va aussi organiser des ateliers de formation ce week-end lors de notre Assemblée Générale. On va faire un atelier d'automne là, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration et des cadres régionaux pour commencer à être plus en conscience, bien évidemment, des enjeux et ensuite en capacité, bien évidemment, de travailler avec les populations de manière très large, quoi. L'idée, c'est pas de devenir des experts, c'est pas notre métier, mais c'est de s'inscrire durablement dans ces questions et surtout de le faire avec tout le monde. Voilà, on est assez attachés, nous, avec cette logique d'écologie populaire, hein. C'est-à-dire qu'une MJC, elle touche un peu toutes les populations sur un territoire.
Et puis, c'est de plus en plus demandé. C'est sûr, pour avoir des financements, maintenant, il y a souvent une condition, une conditionnalité à des engagements écologiques.
Oui, tout à fait. Mais c'est légitime. Enfin, on peut que le saluer. Et c'est aussi une exigence qu'ont les jeunes bénévoles, les jeunes militantes et les jeunes militants des MJC à un moment. C'est que comment notre réseau, il tient sa promesse par rapport à ça. C'est que c'est Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est un enjeu vital. Les gens ont envie de s'engager, qu'on soit bénévole, professionnel ou volontaire en service civique dans une MJC. Ça fait partie des questions sur lesquelles on a envie d'agir. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'organise un peu mieux pour agir collectivement sur ces questions-là.
Et comment ça va pouvoir essaimer ensuite sur toutes les MJC françaises ?
Là, l'idée, c'est qu'on travaille avec les réseaux régionaux. Donc, charge ensuite à chaque réseau régional, qui est en gros implanté sur une grande région, hein, d'accompagner les associations locales dans la mise en œuvre de programmes de formation, d'accompagnement, d'actions collectives. On va avoir une grande convention nationale des MJC en 2025, donc ça sera aussi un objet. Et on invite comme première étape l'ensemble des associations à signer la charte des MJC en transition, une charte qu'on a construite au sein du réseau et qui va marquer finalement le début de ce processus avec l'idée de, par la signature de la charte, les associations s'engagent à agir dans l'un des 10 domaines en gros que propose cette charte, et très concrètement de mettre en œuvre des actions sur le terrain sur ces différentes questions.
Eh bien, un grand merci Patrick Chenu, donc directeur de MJC de France, et bienvenue à tous les représentants des MJC dans la Vienne. Vous serez donc vendredi et samedi au CPA de Latus Saint-Rémy pour votre assemblée générale et pour tous ces échanges sur la transition écologique. Merci beaucoup.
Merci à vous, très bonne journée.
Demain, dans Séquence Midi, avec nos invités, on parlera de Grand Poitiers entre en gare, le grand projet de rénovation du quartier gare, et puis des difficultés financières à la Fanzinothèque. Mais tout de suite, on retrouve Candice Mottet-Debert, médiatrice cinéma au Dietrich. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles d'un film de Motard.
Oui, tout à fait. Ah là là, on est contente au Dietrich parce que c'est notre thématique on the road. Alors, il y a 3 films hein, ce mois-ci, Love Lies Bleeding, Collateral et The Back Riders qui sort aujourd'hui. C'est le nouveau film de Jeff Nichols. Jeff Nichols, c'est un réalisateur américain indépendant qui nous a fait Take Shelter, Midnight Special et dernièrement Loving, qui était une très belle histoire d'amour sur la ségrégation. Alors il revient avec un polar, un drame un peu historique sur une bande de motards, avec un casting légèrement 3 étoiles, Tom Hardy, Jodie Corner, Austin Butler, bien sûr Michael Shannon, son acteur fétiche, également Norman Reedus, hein, qu'on a connu dans The Walking Dead par exemple. Alors, C'est une histoire de motard. Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals, et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang, dirigé par l'énigmatique Johnny, évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société à l'époque, les Vandals deviennent une bande donc de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Alors on est ravis parce que Austin Butler, hein, c'est un acteur qu'on a découvert pour la plupart dans Elvis, il interprétait Elvis tout simplement, on l'a aussi vu dans Dune 2, c'est un acteur là qui arrive avec toute sa belle gueule mais aussi tout son talent d'acteur. Alors je vous lis une petite critique de nos amis de Sortir à Paris. Forcément influencé par Easy Rider et Sons of Anarchy, le film parvient parfaitement à saisir le sentiment de liberté qui traverse la société américaine dans les années 60, porté par une bande originale soul et rock'n'roll. Le film sait mettre aussi en avant les fêlures de ces marginaux rejetés par la vie, questionnant leur masculinité et ce besoin d'appartenance à un groupe. Car les Vandals n'ont pas toujours été des durs à cuire. En réalité, The Bike Riders raconte surtout l'histoire de petits garçons en manque d'amour qui, pour recréer la famille qu'ils n'ont pas eue, s'entourent de moteurs qui rugissent fort. Alors ça s'appelle The Bike Riders, c'est un polar drame historique de Jeff Nichols, un gros casting et ça sort dès aujourd'hui au Dietrich.
Et tu voulais nous parler d'un rendez-vous du Ciné-Club ?
Tout à fait, c'est notre dernière séance Ciné-Club Les Trésors de Marlène de cette année, parce qu'on fonctionne en année scolaire. Notre programmation double et doublure s'achève sur une méditation ludique sur l'original et la copie, avec le film Copie conforme, une escapade européenne du grand cinéaste iranien Abbas Kiarostami, qui met en scène une étonnante Juliette Binoche, hein, qui a été récompensée pour ce rôle par le prix de la meilleure interprète féminine en 2010 à Cannes. La séance, comme toujours, sera présentée et animée à la fin par Alexandre Moussa, qui est rédacteur cinéma pour le webzine Criticat et également enseignant de cinéma à l'université de Poitiers. Alors, Copie conforme, hein, c'est un film de 2010 d'Abbas Kiarostami, c'est un drame. James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie à l'occasion de la sortie de son dernier livre une conférence ayant pour thème les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. Il rencontre une jeune femme d'origine française, galeriste. Ils partent ensemble pour quelques heures à San Gimignano, petit village près de Florence. Comment distinguer alors l'original de la copie, la réalité de la fiction ? Viennent-ils de se rencontrer ou sont-ils en couple depuis toujours ? Une fascinante métaphore sur les relations de couple. Alors, c'est tourné sans aucune ellipse, on peut y voir une formidable représentation des étapes successives de la vie d'un couple en l'espace de 2 heures. Rencontre, séduction, première dispute, reproche, nostalgie des premiers instants. Ici, le réalisateur iranien Kiarostami délivre donc un film foisonnant de symboles qui mérite certainement plusieurs visions pour en déceler toutes les subtilités. Et c'est là l'intérêt de l'intervention d'Alexandre Moussa qui peut nous aider à décortiquer le film qu'on vient de voir à l'issue de la projection. Alors, copie conforme, ça passera en séance unique lundi 24 juin à 21h et c'est la seule occasion de le revoir sur le grand écran.
Merci beaucoup pour ces préconisations cinématographiques. On te retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Tout de suite, c'est l'heure de vos autres idées sorties. Aux archives départementales, à 14h, le Moyen-Âge nous parle, conférence forgerie et falsification de chartes au Moyen-Âge, du travail de faussaire à celui du critique, par Laurent Morel, directeur d'études à l'école pratique des hautes études de l'université PSL de Paris. C'est dans le cadre des semaines d'études médiévales du CESCM et c'est ouvert exceptionnellement à un public plus large désireux de découvrir les derniers acquis de la recherche scientifique en matière d'histoire de l'écriture au Moyen-Âge. À 18h, il y aura un concert à la cour des ducs d'Aquitaine de Guillaume IX, le troubadour à Aliénor, en prélude de la fête de la musique, plongée dans ce siècle d'or qui a vu l'éclosion de la polyphonie et l'avènement de la fine amour des troubadours. Au Tap Castille, Pat et Matt déménagent de Marek Benesch, c'est un film d'animation tchèque et ça nous parle de deux inséparables bricoleurs qui ont des idées à l'appel pour améliorer leur quotidien et surtout vous faire rire à travers leurs gaffes. Et puis Balade Préhisto du musée aux grottes, c'est à 15h pour tout public et vous pourrez découvrir les collections du musée, notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l'art de la gravure, puis partez à la découverte des grottes de la Marche et des Fadets où elles ont été découvertes par milliers. C'est donc à Lussac-les-Châteaux. Sur Pulsar à 18h, c'est Jazz Product. À 21h, l'Indépendance et de la Novo Pop. Et ce soir à 23h, c'est Sono Kino. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec You Kim et son titre Cahier de brouillon. Bon après-midi, à demain.
C'est juste un coup de crayon dans un cahier de brouillon. C'est juste un coup de crayon dans un cahier de brouillon. Donc écoute ça, ouais écoute ça. Ok, yo. Faire de longues études pour être payé comme un smicard. Y'en a marre, à 35 heures et payer 1003, c'est être esclave, serviteur volontaire d'un système qui m'afflige. Je le fais pas par plaisir, je le fais uniquement pour survivre. Et j'emmerde le capitalisme. Pourtant je fais un métier qui tous les jours le valorise. Et le gouvernement ment, te la mets profond lentement, te pille ton argent et tes rendements. On ne compte plus leurs manquements, j'ai horreur de me donner un style. Fuck vos critères physiques et vos modes futiles. Ouais, prenons le body positive. Le jugement en permanence c'est fatigant et ça devient nuisible. Ouais, nuisible. Et aujourd'hui trop de bavures policières. Le peuple en a ras la casquette, mais le système n'en a que faire. Nous diviser c'est tout ce qu'ils savent faire. Le savoir vivre et les valeurs se perdent. Plus rien ne va et de cette société je suis sidéré. Pourquoi faut-il prendre de l'alcool et de la drogue pour être considéré? Y a-t-il une autre solution pour sentir intégré? Mettre sa santé en jeu pour un statut social c'est la gâcher. Et la génération internet abrutie par les réseaux sociaux, à se prendre en photo et à s'exposer sur Biril. Reconnecte tes branchements et sois plus dans le reel. Car la vraie vie c'est pas le métaverse, les gens font tout dans le sens inverse. Je vois le monde s'autodétruire derrière mon écran. Peu de personnes s'autocritiquent, ça devient inquiétant. La vie est une course contre la montre, ça devient épuisant. On passe notre temps à essayer de s'adapter au changement. On rêve tous d'un monde où la paix règne. Pour l'instant, c'est les conflits et la haine qui tiennent les rênes. Mamen, M-I-K-A-D-O, Satori, Broissa.
Ok, c'est parti, let's go! Cherche un sens à ta vie, l'ami, le temps passe vite. Tu ferais mieux de courir plus vite si tu le dis. Pour l'instant, je kiffe. Je n'ai pas envie de les laisser me la mettre à l'envers. Ne sois pas surpris si tu me repères à l'enterrement de ta grand-mère, mec. Me raconte pas tes problèmes de vie. Ça fait 3 mois que je suis en claquette, donc crois-moi, je m'en balaye. Castique-moi la quéquette. Vos centres d'intérêt ne m'intéressent guère. Drapeau noir, j'arrive en paix, je repars en guerre. J'emmerde les politiques, j'emmerde leurs belles phrases. Laisse ton avis au placard, une liberté d'histoire, ils attendent qu'on leur serve. Pendant que je m'éclate une boîte d'haricots magiques en conserve. Viens nous voir en concert, en tournée dans les salles des fêtes. N'aie pas peur mon gros, de jouer au mec. L'épaisseur de mon pectoral n'excède pas 1 demi-centimètre. Nihiliste, je danse tout seul en slibard sous la pluie insolent. Je ne veux pas, non, tu ne veux pas, non. On ne peut pas, non, se plier à leur loi malsaine. Watashi wa shita gokoto ga de kimasen. Attiser la peur c'est tout ce qu'ils savent faire. Répondons par l'amour c'est tout ce qui nous reste. Merde.
À quoi tu penses?
Pulsar.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Et c'est toi en plus.